Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la grande édition des 18h, votre grand rendez-vous quotidien avec l'actualité, les faits majeurs, les enjeux du jour, des informations crédibles, vérifiées et mises en perspective. Ici, l'essentiel s'écoute, s'analyse et se comprend. Vous êtes sur Radio Okapi, la radio de la paix, le titre du journal. Sud Kivu, au cœur de la crise de déplacement, 2,4 millions de déplacés internes, de retour massif et une urgence humanitaire révélée par l'OCHA. Émoluments impayés, la grogne des députés provinciaux, 10 mois d'arriéré, des promesses non tenues et des instructions présidentielles ignorées selon le collectif des élus provinciaux. Les bâtisseurs d'honneur présentés à Mbandaka, l'ouvrage du Conseil de l'Ordre rend hommage aux avocats qui ont façonné la profession en RDC, un livre de 96 pages porté par la mémoire, l'éthique et l'engagement de toute une génération. À ne pas manquer l'interview de maître Dominique Kambala, membre du Conseil de l'Ordre et bâtonnier honoraire du barreau des Kananga en fin de journal. Le Sud Kivu détient un triste record. C'est aujourd'hui la province de la RDC qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. Selon l'OCHA, ils sont près de 2 400 000. Paradoxalement, le Sud Kivu arrive aussi en tête avec le nombre de retournés dans leur zone d'origine. Que dit exactement ce rapport? Éclairage avec Jean Kassami.
D'après OCHA, la RDC enregistre plus de 5,61 millions de déplacés internes. Le Sud Kivu concentre à lui seul la proportion la plus élevée. OCHA indique que entre janvier et février 2026, plus de 300 000 nouvelles personnes se sont retrouvées dans l'obligation de fuir leur ménage principalement dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Tanganyika. Ces mouvements sont essentiellement liés aux affrontements armés, ajoute le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Certains déplacés jugent nécessaire de regagner leur zone de résidence dès que la moindre accalmie semble s'y installer. Là encore, les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu restent les plus touchées avec un taux respectif de 67 et 20%. Bien que le mouvement de retour des déplacés internes semble bouger, la problématique des rapatriements des réfugiés congolais au Burundi pose encore problème. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Après le Sud Kivu, direction le Nord Kivu, où la tension reste vive sur le terrain. La situation demeure confuse et volatile ce lundi dans les agglomérations de Lukweti et Kalonge, à la frontière entre le territoire de Walikale et Masisi. Tout au long du week-end, ces zones ont été le théâtre de violents affrontements entre l'AFC M23 et les combattants Wazalendo. Selon plusieurs sources concordantes, les deux forces se font toujours face ce lundi, maintenant une forte tension et paralysant totalement les activités socio-économiques. Les détails avec Élisée Chikota.
Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues une bonne partie de la soirée du dimanche dans cette partie du nord-ouest de Masisi et dans l'est de Walikale. Les sources coutumières locales qui confirment ces combats indiquent qu'au terme d'environ 3 jours d'attaque, l'AFM 23 se serait emparé de la notabilité de Ngurumo, située à 3 kilomètres du centre de Lukweti. L'autre partie de Lukweti, elle, resterait sous contrôle de Wazalendo alliés au FRDC. Par ailleurs, des combats intenses ont également été rapportés jusqu'à tard dans la nuit dans les agglomérations de Kalembe, territoire de Masisi, et Kalonge, dans le territoire de Walikale. Selon nos sources, les Wazalendo ont lancé une offensive aux alentours de 20 heures dans le but de déloger la FM23 de ses positions qu'il occupe depuis fin mars après son retrait d'Mpeti et Mdjedjin. Ce lundi matin, les tirs avaient cessé. Toutefois, la situation demeure extrêmement volatile dans toutes ces entités où les forces belligérantes restent présentes et en alerte. Une situation qui, selon nos sources, perturbe profondément la quiétude des populations locales et paralyse les activités socio-économiques et scolaires en ces jours marqués par la rentrée après les vacances de Pâques.
Cap sur l'Ituri où l'insécurité refait surface sur le grand axe routier. Plus d'une vingtaine de véhicules de transport en commun et de produits pétroliers sont tombés dans des embuscades attribuées aux présumés miliciens de la côte Codeco sur la route nationale 27 entre vendredi et samedi dernier. Selon des sources sécuritaires, un chauffeur de nationalité kényane a été tué au village de Matete et plusieurs biens ont été pillés sur l'axe Djougou-Ngoura dans les territoires de Djougou. Des notables de la région dénoncent fermement ces attaques qui, selon eux, pourraient fragiliser la calmie observée depuis plusieurs mois sur cette route à fort enjeu socio-économique. Reportage signé Martial Kizabiamongo.
Au total, 23 véhicules, dont des véhicules de transport en commun, sont tombés dans des embuscades des présumés éléments de la Codeco vendredi et samedi dernier. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants ont surgi de la brousse en barrant la route sur les tronçons entre Djadjou et Ngoura. Ensuite, ils ont tiré des coups de feu pour stopper les véhicules. Plusieurs biens, dont de l'argent et des téléphones des passagers, ont été arrachés par ces miliciens sur la même route nationale numéro 20. Mais au niveau du village de Matete, cette fois, des sources locales rapportent que ces assaillants ont tué par balle un chauffeur des camions-citernes transportant des produits pétroliers et des nationalités kényanes. Des notables dans la région appellent l'armée à se déployer dans plusieurs endroits jugés dangereux sur cette route d'une importance capitale. Ils disent craindre que ces attaques ne fragilisent la situation sécuritaire sur cette route nationale après une longue période d'accalmie. Bounia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, une nouvelle attaque armée a sémé la mort et la peur. Vendredi dernier, deux personnes ont été tuées et deux autres enlevées, dont un ressortissant chinois, lors d'une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Les faits se sont produits sur l'axe Kitako, en territoire de Kalemi, selon des sources locales. Les précisions avec Paul Munanga.
Un véhicule revenant du site minier situé du côté du village Rugumba, exploité par des Chinois, a été pris pour cible par des hommes armés, indiquent des sources locales. Au bord du véhicule, il y avait quatre passagers, dont un interprète congolais, un chauffeur, une personne qui serait identifiée comme un agent de sécurité et un ressortissant chinois exploitant minier. Les sources rapportent qu'au moment de l'attaque, l'agent de sécurité aurait tenté de riposter mais sans succès et il a été tué sur place. Le chauffeur qui a été grièvement blessé au moment où il tentait de fuir est décédé peu après son transfert à Kalemi. Les ressortissants chinois et son interprète congolais ont été enlevés. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika que nous avons pu jouer ne s'est pas finalement exprimé. Signalons que c'est une énième attaque qui cible un ressortissant chinois œuvrant dans l'exploitation minière dans le territoire de Kalemi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, grogne des députés provinciaux. Le collectif des élus provinciaux de la RDC dénonce la non-exécution des instructions présidentielles relatives au paiement de leurs émoluments. Dans une déclaration faite au samedi 12 avril, ils affirment cumuler 10 mois d'arriéré. Les députés rappellent que lors de la dernière conférence du gouverneur à Bandundouville, la question avait été portée au plus haut niveau et des instructions données pour une régularisation urgente. Depuis, selon le collectif, aucune suite concrète n'a été observée. Les 780 députés provinciaux disent aujourd'hui se retrouver dans une situation difficile sans interlocuteur. Nous vous proposons un extrait de leur déclaration lue par Marcel Nzwambe, secrétaire du collectif. Extrait recueilli par Alain Hirong.
Depuis maintenant plus de 10 mois, nous acquisons un retard de paiement de nos émoluments alors même que nous avons été élus le même jour que le président de la République, les députés nationaux ainsi que les sénateurs, ces derniers ayant été désignés par suffrage universel indirect à partir de nos assemblées. Il est profondément regrettable de constater que, parmi l'ensemble des institutions issues du processus électoral, les députés provinciaux sont aujourd'hui les seuls à être systématiquement négligés alors que les autres élus, députés nationaux et sénateurs, perçoivent régulièrement leurs émoluments. Plus inquiétant encore, à plusieurs reprises, nous avons appris que des instructions claires ont été données par le chef de l'État pour que notre situation soit régularisée. La dernière instruction du chef de l'État est celle donnée en date du 27 mars lors de la 13e conférence des gouverneurs tenue dans la ville de Bandundu du 24 au 28 mars de cette année.
Indignation et colère dans le monde académique. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa dénonce avec fermeté des menaces de mort visant un enseignant de l'université pédagogique du Congo, sanctionné, selon elle, pour avoir refusé de céder à la pression et d'approuver un dossier de thèse au doctorat jugé irrégulier. Dans une déclaration faite ce lundi, le professeur David Loubo accuse ouvertement certaines ingérences politiques dans les milieux universitaires. Il affirme que plusieurs responsables politiques tentent d'user de leurs privilèges pour se faire proclamer docteur au mépris total des normes et des procédures académiques en vigueur. Une situation qu'ils jugent grave, dangereuse et attentatoire à l'intégrité de l'université congolaise. On l'écoute, joint par Alain Hirong.
Il y a quelques mois, on a assisté à l'assassinat du professeur Abata. Les enquêtes pétinent et même la chambre foraine n'a toujours pas eu lieu. Ça montre l'intérêt que les autorités accordent à l'université. Après cela, nous avons assisté à un meurtre manqué du professeur Bung sur la route de l'intendance rond-point Ngaba. Et maintenant, c'est aux collègues de l'UPEN pour avoir dit non à un dossier de thèse. Un collègue de l'UPEN est menacé à mort. C'est ici qu'il faut dénoncer toutes ces antivaleurs-là. Les foisonnements du politique vers l'université, les recommandations qui n'ont jamais existé par le passé, et le manque de suivi, même au niveau des étudiants, où un étudiant échoue ici et il monte de promotion ailleurs, alors que nous sommes dans une même ville, le contrôle est possible. Ici, il faut aussi insister sur le fait que l'université n'est pas une blanchisserie, ce n'est pas un panier à crabe ou encore un fourre-tout. C'est pas tout licencié qui peut devenir professeur.
Au Kasaï oriental, une situation qui interpelle. À l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance à Mbujimayi, 6 corps sont conservés à la morgue et abandonnés depuis plus d'une année. Un phénomène qui tend à se généraliser, l'abandon des dépouilles devenant de plus en plus fréquent dans les morgues de la ville. Les explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis plus d'une année que 6 corps sont toujours abandonnés à la morgue de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance. Cette situation préoccupe Dr. Nicodème Kalala, médecin directeur de cet établissement médical.
Nous avons des corps abandonnés, 6 pour les enfants et 3 pour les adultes. Corps qui ont déjà séjourné à notre morgue très longtemps. Les plus anciens totalisaient maintenant plus de 2 ans et demi.
Selon Dr. Nicodème Kalala, ces dépouilles mortelles représentent non seulement un manque à gagner pour l'hôpital, mais surtout un risque sanitaire.
C'est une source de contamination, donc ça inquiète et le personnel qui travaille et toute personne qui peut y entrer. Donc, ce n'est pas bien. Alors, notre souci, c'est de dégager ce corps de notre manque, vraiment. C'est un manque à gagner parce que ces places-là pouvaient être occupées par d'autres corps.
Ce phénomène n'est pas isolé. Dans plusieurs morgues de la ville, des corps sont régulièrement abandonnés faute de moyens ou de familles pour les réclamer. Il y a quelques semaines, certaines dépouilles gardées à la morgue de la clinique universitaire de l'université officielle de Mbujimayi ont finalement été inhumées sur réquisition du tribunal de grande instance de Mbujimayi, mais le problème persiste. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Beni, l'accès à l'eau potable devient un véritable casse-tête. Dans plusieurs quartiers de la ville au Nord Kivu, des ménages restent 2 jours, parfois des semaines, sans eau au robinet. Faute d'alternatives, les habitants s'y tournent vers des sources de fortune, souvent insalubres et dangereuses pour la santé. Une situation qui alimente inquiétude et frustration au sein de la population. Reportage signé Jacqueline Vivois, notre stagiaire.
Dans plusieurs quartiers de Beni, notamment résidentiels, Kanzouli, Tamende, Ndoni et Ma Campagne, l'eau de la régie des eaux ne coule plus depuis plusieurs jours. Une situation qui perturbe fortement le quotidien des habitants, rendant plusieurs tâches ménagères difficiles, témoigne cette habitante.
Nous venons maintenant de faire 3 semaines sans avoir l'eau de la régie des eaux et vraiment ça nous cause beaucoup de peine. Comme dans tout ménage, on doit torchonner, on doit faire la vaisselle, apprêter les enfants, s'apprêter soi-même pour partir au boulot, ce n'est pas vraiment facile.
Face à cette pénurie, certains ménages s'adaptent comme ils peuvent en recourant à d'autres sources d'approvisionnement qui ont pourtant des risques sanitaires, craint cette habitante.
Seigneur, quand il n'y a pas d'eau, nous nous réveillons le matin pour puiser l'eau du puits et, si on n'en trouve pas, nous achetons de l'eau de forage. Les conséquences sont nombreuses, car l'eau des puits que nous utilisons peut rendre malade et son utilisation pour la douche occasionne parfois des démangeaisons.
Malgré nos tentatives, nous n'avons pas obtenu la réaction du responsable de la régie des eaux. Béni, Jacqueline Vivouya, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'Iran a enregistré en 2025 le plus grand nombre d'exécutions capitales depuis 1989, selon un rapport conjoint de deux organisations de défense des droits humains. Les autorités iraniennes auraient exécuté au moins 1639 personnes au cours de l'année, soit plus de 4 exécutions par jour en moyenne. Ce chiffre marque une hausse des 68% par rapport à 2024, année au cours de laquelle 995 personnes, dont 48 femmes avaient été exécutées. Ces données proviennent du rapport annuel de l'organisation norvégienne Iran Human Rights et de l'ONG Ensemble contre la peine de mort basée à Paris. Les deux organisations appellent les pays occidentaux à intégrer la question de la peine capitale dans leurs négociations avec Téhéran. Elles mettent en garde contre le risque que les exécutions soient utilisées de manière encore plus systématique comme instrument de répression sur la République islamique surmonte la crise actuelle. Iran Human Rights précise que ces chiffres constituent un minimum, l'organisation exigeant la vérification par au moins 2 sources, alors que la majorité des exécutions ne sont pas relayées par les médias officiels iraniens.
L'invité.
Un hommage à la profession d'avocat. L'ouvrage intitulé « Les bâtisseurs d'honneur » consacré aux avocats par le Conseil de l'Ordre vient d'être officiellement présenté en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Ce livre de 96 pages retrace l'histoire et met en lumière les pionniers de cette profession libérale. À cette occasion, Maître Dominique Kambala, bâtonnier honoraire du barreau des Kananga au Kasaï central et membre du Conseil de l'Ordre, s'est exprimé au micro de Kakiakewa.
Maître Dominique Kambala, bonjour.
Kakiakewa, bonjour.
Vous faites partie du Conseil national de l'Ordre. Vous étiez à Mbandaka pour les baptêmes de cet ouvrage édité aux éditions Presse universitaire de Kinshasa. Pourquoi les baptêmes de ces livres s'est déroulé à Mbandaka?
À Mbandaka, parce que nous avons fait d'une pierre deux coups. Comme vous le savez, chaque année, l'Ordre national des avocats organise deux grandes assises. La conférence des bâtonniers de la RDC, et cette fois-ci c'était la 20e, et l'Assemblée générale de l'Ordre national des avocats. Donc, il ne pouvait pas être autrement que le bâtisseur soit porté sur les fonds baptismaux à Mbandaka.
Très bien fait, en tout cas, les bâtisseurs d'honneur. Mbandaka, ça tombe bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser cet ouvrage?
La collecte des données n'a pas été facile. Il fallait commencer, remonter l'histoire à partir de 1963 jusqu'à ce jour. Donc ça n'a pas été facile pour collecter les données. Parmi les bâtisseurs, il y a ceux qui sont décédés, il y a ceux qui sont en dehors du pays, il y a ceux qui n'exercent plus la profession. Bref, voilà, donc c'était pas facile de pouvoir collecter toutes les données en étant record.
Maître Dominique Kambala, vous avez parlé des 1963 pour réaliser. Alors, en 1963, il n'y avait qu'un seul avocat congolais au barreau de Kinshasa, s'il y avait encore les barreaux.
Oui, les espèces.
Maître Mbongo.
Avec d'autres. Et comme le premier qui a son numéro en tête, c'est Victor Promontorio, alias Seya Chibango. Mais c'est un étranger. Alors, si vous regardez bien, c'est Mbongo Vital qui vient en deuxième position. Donc, le premier, c'est pourquoi il est compté comme le premier avocat congolais, bien qu'il soit le deuxième sur le tableau.
Vous avez fait 96 pages pour réaliser cet ouvrage consacré aux avocats. D'autres avocats ne se sont pas retrouvés, j'imagine.
Bon, en tout cas, dans l'ensemble, parce qu'ici, il s'agit des bâtisseurs. En termes des pionniers, comme votre père, Papa Akewa,
oui,
c'est parmi les pionniers du barreau congolais. Alors, il y a aussi dans cette catégorie les anciens bâtonniers nationaux. Il y a les anciens bâtonniers qui ont dirigé le barreau et il y a les bâtonniers en exercice. Et donc, on a fait un effort pour que vraiment, on n'oublie personne. Et de toute manière, c'est une œuvre humaine,
oui,
qui est perfectible.
Voilà.
Donc, il peut arriver qu'un détail ait manqué. Mais en tout cas, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'oublié.
Et j'ai parcouru l'ouvrage, même en diagonale, mais j'ai parcouru quand même. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont décédés. Là, tout récemment, quand vous écrivez ces livres, Maître Matadinenga Gamanda n'était pas encore décédé. Quand le livre est sorti, il est décédé. C'est parmi les difficultés, j'imagine.
Oui, paix à son âme. On pensait peut-être qu'il allait rester jusqu'au baptême, mais Dieu en a décidé autrement. Voilà, donc, il aurait pu être heureux de se regarder lui-même. Eh ben voilà, l'irréparable est arrivé.
Maître Dominique Tambala, 200 exemplaires seulement pour cet ouvrage, et les 200 exemplaires sont épuisés déjà.
Déjà épuisés, et nous avions été obligés de faire déjà une autre commande. Et là, nous saluons vraiment les avocats qui ont compris qu'il fallait vraiment procéder à ces devoirs de mémoire. En tout cas, les 200 qui ont été faits en Bandaka, c'est parti. Nous avons encore imprimé une autre quantité. Bon, on espère que, voilà.
Bâtisseur d'honneur, c'est ce livre qui est déjà sur les marchés, il faut dire ça comme ça, mais 200 exemplaires, vous êtes sous-estimé ou bien parce qu'il fallait peut-être produire 2000?
Bon, nous avons d'abord commencé par un essai. Nous avons compris que sa portée, c'est un produit qui est consommable. Et là, je pense que nous prendrons disposition. Et il ne faut pas aussi oublier que le marché du livre au Congo est toujours compliqué. Donc, plus vous produisez, ça risque de poser un problème. Donc, nous allons aller comme ça. Comme nous sommes dans une corporation, dans un ordre, il y a des barreaux qui vont sûrement intéresser les autres avocats et qui passeront le commande.
Les bâtisseurs d'honneur, et ça, vous avez parlé un tout petit peu de l'honneur d'un avocat en République démocratique du Congo également, d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a de l'honneur, l'avocat congolais?
C'est ce que je dis, il ne manque pas de moutons noirs. Mais on ne peut pas compter 10 moutons noirs pour jeter de l'opprobre sur la profession. Mais nous, nous faisons un effort pour que, en tout cas, l'éthique professionnelle soit, c'est comme la discipline, comme à l'armée. Donc, il faut qu'on mette à la devanture l'éthique professionnelle. Et ça, c'est les combats de tous les jours du Conseil national de l'ordre et même de tous les bâtonniers à travers toute la République, parce que nous gérons les affaires d'autrui. Et l'élément confiance, il est crucial et monumental. Et on ne peut pas détruire la confiance. Et c'est pourquoi on est très regardant pour que les avocats qui manquent au devoir de la profession puissent répondre de leurs responsabilités professionnelles et disciplinaires.
Maître Dominique Tambala, Radio Captive vous dit merci.
Je vous en prie.
C'était notre invité, Maître Dominique Tambala, bâtonnier honoraire du barreau de Kananga et membre du Conseil de l'Ordre, nous parler de l'ouvrage « Le bâtisseur d'honneur » consacré aux pionniers du barreau congolais. Il s'exprimait au micro de Kaki Akewa. C'était la grande édition des 18h sur Radio Capi, présentée par Gisèle Cage. Merci de nous avoir suivis. L'information continue au-delà des ondes sur nos plateformes numériques. Radio Capi, des informations crédibles vérifiées sur le site web et le réseau social. Rendez-vous à 19h pour le dernier bulletin d'information de la journée. Très bonne soirée à toutes et à tous.